Est-ce que vous avez tous vos verres?
Oui.
Ah, maman, il est vide.
Est-ce que vous avez vos tartines?
On n'a pas de graines germées cette fois-ci.
On ira tartiner après,
oui. On ira tartiner après.
On a déjà eu des graines germées aussi, mais ça sera pour plus tard, on verra. Bon, on va pouvoir commencer. Voilà, à glouglou,
à glouglou. À glouglou, attends, je...
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'émission Passe-moi le sel, s'il vous plaît. Et voilà, c'est parti. Les amis du soir, bien le bonjour. Et les amis du jour, ce sera le bonsoir pour vous pour cette émission de Passe-moi le sel qui se déroule bien sûr à Bédarieux dans les studios de Honda Pays, comme par hasard à l'heure de l'apéro. Comme quand on vient rendre visite à des amis le petit matin, on apporte des petits croissants. Il n'est donc pas surprenant que pour l'heure de l'apéro, chacun de nos invités se soit chaussé de ses saucissons ou de pâtés ou de bons vins locaux. On aura l'occasion bien sûr d'en parler, mais surtout de le goûter. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept de cette douce émission philosophique et culturelle, on est là avant tout pour se détendre. Alors cool, tous les 15 jours dans cette émission, nous invitons des habitants de la région simplement pour échanger, partager un moment et parler de passion. Bien sûr, parler de tout ce qui se parle pendant les moments de l'apéro. Attention, on ne va absolument résoudre aucun problème, simplement partager. Cette émission, je ne pourrais pas la présenter sans ma complice de Honda Pays, Sarah Fernandez.
Salut.
Salut Sarah, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue.
Mais oui Thierry. Ouais,
c'est vrai, tout va bien chez toi?
Ouais. Comme d'hab,
d'accord.
Toujours.
Pour cette émission, nous avons trois invités avec nous ce soir. Autour de la table, Arnaud. Salut Arnaud.
Salut.
Mais également Lucas. Salut Lucas.
Bonsoir.
Et puis Bastien, à qui je tends le micro.
Et salut le micro.
Et bien sûr Thierry, toujours là au rendez-vous.
L'émission, ça s'appelle Passe-moi le sel. Bah, passe-moi le sel, comme on dit, passe-moi le poivre, passe-moi le micro aussi à l'occasion pour parler de tout et surtout pour parler de n'importe quoi.
De ce que l'on aime bien.
Ah, aussi, oui.
Ou de ce que l'on n'aime pas aussi, hein, ça peut marcher.
Ça se passe à l'heure de l'apéro, donc on parle pour se faire plaisir. Chacun est venu avec son petit panier. Il y a du vin, il y a à boire, il y a à manger.
Il y a du fromage avec de la pâte de coin, c'est excellent.
Ça promet. Allez, on commence de suite cette émission et pour se présenter simplement, notre premier invité, je tends le micro à Lucas, vas-y.
Ah ouais, il n'y a même pas de thème et tout.
Non, même pas, on n'a même pas de thème, on commence comme ça, c'est l'heure de l'apéro et tu te présentes tout simplement.
Ben voilà, Lucas, je suis artiste, DJ à la base, animateur, promoteur, impresario, ingénieur du son. Et on travaille depuis 2019 sur RPH. Donc on a une émission qui s'appelle Reggae Losophie, une fois par mois, où on développe ce thème qui est le reggae, parce qu'on est tombé dedans après avoir connu la musique, mais voilà. Et aussi sur Radio Lodève, donc avec une émission une fois par semaine, tous les jeudis, où là on rentre dans, où vraiment on joue les nouveautés, qui sortent aujourd'hui en reggae, même il y en a tous les jours, il y en a toutes les heures, comme dans toutes les musiques, et donc nous on développe cette musique, le reggae avant tout, et après on enregistre plein d'artistes, des punks, des rastas, des mecs qui font du hip-hop, du graffiti, enfin voilà, on aime l'art avant tout, et surtout la musique, voilà. Donc je m'appelle Lucas, Dreda. L'association, c'est Dreda System, actif sur Clermont-l'Hérault et sur Bédarieux. Nous avons un studio d'enregistrement sur Bédarieux et sur Clermont-l'Hérault. Et voilà.
Notre deuxième invité s'appelle Bastien. Il est musicien aussi. On fait la liaison avec la musique puisqu'il joue de la clarinette.
De la clarinette, oui.
Il fait du badminton, mais je ne vous laisserai pas deviner son boulot parce que sinon, il y en aurait pour une heure. Vous ne trouverez pas son boulot. C'est un boulot qui est... C'est hyper rare ou c'est pas rare?
Ça se démocratise de plus en plus. On veut dire que la réglementation fait que ce genre de métier-là est de plus en plus demandé, quoi. Oui.
Moi, j'ai retenu voyeur de ptères.
Voyeur de ptères, c'est pas mal.
Ça marche, non?
Quoi d'autre? Vas-y, quoi d'autre comme...
Quoi d'autre pour qualifier, ouais.
Récolteur de biodiversité.
Oh, joli. Récolteur de biodiversité, j'aime bien.
Non, mais Sarah, c'est une poète.
Ah oui, oui, on sent, on le sent.
Alors, tu ne connais pas tous les animaux, par contre.
Je connais pas, j'arrive pas à identifier toutes les espèces. Celles qui font des ultrasons, c'est pas mon domaine, par exemple.
Voilà, la chauve-souris, c'est l'exception.
Voilà, il faut être appareillé, il faut avoir des outils pour capter les ultrasons, pour reconnaître ces espèces-là. Moi, ça rentre pas dans mon champ de compétences.
Le chiroptère, tu parles bien de ça.
Ah, mais quel terme technique, joli.
Ah, la faillotte, j'y crois pas, quoi. Elle l'a placé, je l'avais marqué sur un morceau de papier, je voulais le dire. J'y crois pas.
En fait, j'inventorie tout ce qui bouge, que ça ait des écailles, que ça ait des plumes, des poils, ou que ça ait une police. Donc en fait, effectivement, j'inventorie les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les insectes, les mammifères.
C'est très général comme truc.
C'est super général, faut avoir
un peu. Les humains aussi, ou...
Les humains, j'évite. Moi, je les vois, mais je me porte sur le terrain. Hein. Moi, je cherche les coins calmes où il y a plus de faune que d'humains. Mais ouais, il faut savoir se servir de ses yeux et de ses oreilles pour capter un petit peu tous les moindres indices, les moindres bruits, les moindres mouvements pour avoir un peu une idée de des animaux présents sur un petit secteur, quoi.
Mais tu as une notion des animaux qui traînent dans le secteur où on t'envoie?
Je sais, ouais, a priori maintenant, une fois que tu sais un petit peu, que tu connais les secteurs géographiques de France, tu sais à peu près à quoi t'attendre, mais tu as toujours des surprises. La nature est toujours imprévisible, on a toujours de quoi découvrir tout le temps, quoi. Sur les animaux que je répertorie, je pense qu'on tourne autour de 500-600 espèces, peut-être un peu plus. Mais je fais pas tous les groupes, en fait. Si tu veux, donc les oiseaux, il y a à peu près 300 espèces nicheuses en France. Il peut y en avoir plus, il y en a plus que ça avec les migrateurs, les espèces rares, etc. Mais ensuite, quand on regarde les insectes, moi, les insectes, je fais que les papillons, les libellules et les criquets sauterelles. Ça limite un petit peu, voilà. Oui, voilà. Ouais.
Mais c'est peut-être important de définir ce qu'est une espèce pour vraiment comprendre ce que ça veut dire 500 espèces.
Oui.
En fait, c'est pas 500 animaux, c'est beaucoup plus large comme famille quand même.
C'est pas forcément... Non, une espèce, ce qu'on définit comme espèce, c'est... Alors, la définition d'espèce, si on recherche un petit peu biologiquement parlant, c'est un terme qui est compliqué. Mais en fait, c'est un groupement d'individus qui sont susceptibles de se reproduire entre eux, en gros, si on veut. Une population stable, homogène, qui se reproduit entre eux. Voilà. Donc, une espèce, par exemple, le loup gris est une espèce, la chouette hulotte est une espèce, voilà. Et après, tout ça, on les classe, il y a la classification qui existe, on les classe dans les oiseaux, les reptiles, les mammifères, etc. Il y a des embranchements de classes qui sont faits, voilà, pour ranger un petit peu tout ça dans nos petits cerveaux d'humains qui ont du mal à comprendre un peu comment la nature se façonne. Mais voilà, une espèce, c'est quelque chose, c'est l'entité sur laquelle on se base, nous, c'est vraiment la plus petite entité qu'on va étudier, quoi. Donc, effectivement, une espèce d'oiseau particulière, la mésange charbonnière, c'est une espèce, par exemple, qui est différente de la mésange bleue, qui est une autre espèce de mésange, mais c'est deux espèces différentes. Et voilà, et nous, on va inventorier toutes ces espèces-là dans le cadre de mon travail. Pour prendre en compte ce qu'on appelle donc la biodiversité, qui est un terme que je pense tout le monde a entendu parler, qui se démocratise, quoi, qu'on entend de plus en plus parler, souvent sans savoir vraiment de quoi ça veut, enfin quelle est la définition exacte. Et nous, notre objectif, c'est de prendre en compte cette biodiversité dans les projets d'aménagement pour enrayer un petit peu le déclin. Je pense que tout le monde a entendu parler du déclin actuel de la biodiversité. On est dans ce que les scientifiques appellent la 7e crise de biodiversité. Hein. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. On a des chutes. Je veux pas plomber l'ambiance à cette soirée, mais on a
quand même...
On va picoler pour oublier.
Non, mais on parle d'extinction. C'est la 7e extinction. Donc, certains utilisent ce mot.
Oui, et c'est vraiment... On a des chutes importantes de biodiversité à l'échelle mondiale et à l'échelle de la France. Ça se ressent aussi. Il y a des études qui sont sorties pour parler un petit peu plus... scientifiquement, en Allemagne par exemple, c'est peut-être un peu plus que ça, mais en une trentaine d'années, on a eu des chutes des insectes de l'ordre de 70-80%, quoi, par exemple. Mais je pense que vous vous en rendez tous compte quand vous prenez la voiture par rapport à ce que... l'état des pare-brises, voilà.
Pas pour les moustiques.
Alors les moustiques, il y a une problématique, c'est d'ailleurs une des causes d'érosion de la biodiversité. On a des grandes causes, hein, qui sont sorties pour l'érosion de la biodiversité. L'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, ça fait partie des grandes causes d'érosion de la biodiversité. Et le moustique tigre, par exemple, c'est une espèce qu'on a maintenant en France, qui n'était pas du tout présente initialement, quoi, qui a été importée et qui se développe et qui nous embête un petit peu. Forcément, les soirs d'été, on se fait piquer.
Attends, enfin, c'est que ça, c'est les risques de maladies, de transmission, voilà. Qui sont plus dans le palu, etc.
Voilà. Et puis des modifications. Alors, le moustique tigre, en termes d'impact sur la faune et la flore, on ne sait pas forcément si ça a des impacts impacts significatifs, mais il y a d'autres espèces qu'on a introduites dans les écosystèmes et qui perturbent complètement les chaînes alimentaires. On peut par exemple parler des écrevisses américaines. Tout le monde en a entendu parler, il y en a partout, et ben elles vont boulotter les œufs, les têtards d'amphibiens, elles vont impacter les espèces autochtones d'écrevisses, parce qu'on avait des écrevisses en France, l'écrevisse à pattes blanches par exemple, qui est une espèce de nos rivières et qui décline à cause de l'introduction de cette espèce-là.
Ouais, et je sais pas si tu as remarqué, mais partout où vont les Américains, ils foutent le bordel.
C'est un bouquet sans fleurs, une fleur sans parfum, un parfum sans odeur, une odeur sans plus rien. C'est une idée sans mots, c'est un mot sans pensée, une pensée sans cerveau, un cerveau sans passé. C'est un bijou sans corps, c'est un corps sans envie, c'est une envie sans mort, c'est une mort sans lit. Une chanson sans début, un début sans histoire, une histoire sans vécu, un vécu sans mémoire. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. C'est un ciel sans espace, un espace sans limite, des limites sans trace, une trace sans suite. C'est un amour sans cœur, un cœur sans pulsation, une pulsation sans heure, une heure sans sensation. Un jardin sans verdure, une verdure sans couleur, une couleur sans peinture, une peinture sans hauteur. C'est un chemin sans fin, une fin sans baiser, un baiser sans humain. Un humain sans bébé. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. C'est un rire sans bouche, une bouche sans peau, c'est une peau sans douche, une douche sans eau. Une larme sans glot, un sanglot sans bougie, une bougie sans cadeau, un cadeau sans ami. Un désir sans berceau, un berceau sans prénom, un prénom sans marmot, un marmot sans poumon. C'est un amour sans cœur, ce sont deux cœurs sans fruits, comme deux fruits sans fleurs, comme de fleurs sans pluie. Nous avions tout notre temps, celui des papillons, pour faire nos enfants aussi beaux que nous étions. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, pour faire nos enfants aussi forts que nous serons. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, pour faire nos enfants aussi forts que nous serons. Nous avons tout notre temps, plus celui des papillons, faire nos enfants aussi forts que nous serons.
Tu écoutes Onda País, la radio des Hauts-Cantons.
Et c'est l'émission Passe-moi le sel qui se passe à l'heure de l'apéro. Et juste après avoir discuté avec notre deuxième invité, Bastien, nous avons le plaisir d'avoir également avec nous Arnaud. Et tu es aussi de Bédarieux.
Oui.
Depuis longtemps.
Oui. Enfin, je ne suis pas natif de Bédarieux, mais je suis à Bédarieux depuis que j'ai 14 ans.
Tu es imprégné de Bédarieux.
Voilà.
Voilà, et avec différentes passions, que ce soit autour de la musique, autour de la nature, autour de la vie, autour du social quand même aussi.
Ah ben, tu as bien résumé, c'est exactement ça.
Il n'y a pas de priorité, ils marchent tous, elles se lient les unes aux autres.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais pour illustrer ça, aujourd'hui j'ai passé ma journée au pied d'un olivier à ramasser mes olives et je me suis régalé.
Quel olivier? Où ça?
Chez moi.
Chez toi? Ah oui.
Ouais, je ramasse mes olives et puis je vais les amener au moulin. Voilà. Donc, la nature...
On a fait ça ce week-end aussi, nous.
Ah,
Le même moulin, je pense qu'on est, on fait le moulin de Bédarieux, là. Je sais plus où c'est, non ?
Ah, s'il y a un moulin à Bédarieux, ça m'intéresse.
Ah ouais ?
Ouais.
Ah,
un moulin pour faire l'huile d'olive ?
Ouais, ouais, ouais. On a ramassé 150 kilos hier avec mon frère et tout. Ouais.
Et tu les as pressés où, du coup ?
Bah, on les presse, justement. Mon frère, il a le. Enfin, il connaît la personne qui a le moulin, là, et on fait presser ça, et voilà.
Ah, bon, mais tu nous donneras
la news. Ah, ok, bah voilà, mais tu vois, parce que, voilà la news, mec.
Parce que moi, je les amène à Fontes, et c'est, donc c'est pas à côté,
Fontes,
quand même.
Fontes, alors, ouais. C'est où, c'est à combien de kilomètres d'ici ?
Bah, il y a bien 25 bornes.
Ah non, c'est pas là-bas, alors. Non, moi, j'ai un truc plus près, je pense.
Ouais. Ok. Ouais. Ben, tu me donneras l'adresse.
Voilà, il y a toujours des bons plans voilà. autour de la nature. Mais, alors, les olives, elles sont pas piquées, tes olives, elles sont bien ?
Non, elles sont un peu piquées quand même, parce que bon, c'est des oliviers que je traite pas, ils sont pur jus, il y a pas de traitement.
Bastien peut pas nous renseigner, nous parler pourquoi elles sont piquées ces olives, c'est plus de ton ressort.
Ah, je suis pas spécialiste des parasites de l'olivier, mais bon, après effectivement, hein, ça fait partie de la nature, hein, la relation proie-prédateur et la relation de parasitisme. Entre les insectes et les plantes, effectivement, de toute façon, ça fait partie des cycles de la nature et on peut pas forcément lutter contre. L'homme essaye de le faire avec ses produits de synthèse chimique, mais on détraque plus que ce qu'on améliore la chose, quoi.
Malheureusement, il faut attendre beaucoup d'années, des centaines d'années pour se rendre compte qu'on était assez con pour détruire le tout, quoi.
Oui, ben, heureusement qu'il y a des lanceurs d'alerte et que ça, les mentalités changent, mais effectivement, c'est... Faut le temps, quoi.
Puis il y a des gens qui se rappellent que je crois que c'est un bouquin qui s'appelle le fraisier aime les poireaux ou un truc comme ça là qui rappelle les interactions justement entre les plantes et insectes qui vont permettre de maintenir cette biodiversité de manière convenable.
Ah oui, et puis globalement, ce qu'on appelle biodiversité, hein, c'est la diversité du vivant, quoi. Et plus la diversité est riche, plus les espèces sont nombreuses, plus les interactions sont diversifiées et plus les écosystèmes sont résilients. Hein. Plus, à l'inverse, plus on a des écosystèmes qui sont pauvres, type pinèdes, plantées, homogènes, et plus on se rend compte qu'un moindre parasite là-dedans, et tout est foutu, et l'écosystème s'écroule, quoi. Donc la biodiversité, c'est aussi ça, quoi. C'est la diversité du vivant dans son ensemble et dans les interactions qu'elle crée entre elles.
Et du coup, toi, t'en penses quoi de cette super grande... invention qu'ont trouvé nos amis les Chinois de faire un immeuble de 6 ou 7 étages avec je ne sais plus combien de porcs à l'intérieur, justement, un élevage intensif, de milliers, de dizaines de milliers de... Donc ça revient au même, s'il y a un parasite qui rentre, c'est foutu, quoi.
Ouais, ouais, et puis au-delà de ça, enfin.
Ouais, oui, au-delà de. Déjà, non, mais là, c'est... pour rebondir sur ce que tu disais, ouais. Au-delà de ça, oui, c'est
ça, ouais, c'est pas un écosystème, quoi. Déjà, là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de naturel. Et dans tous les cas, ouais, non, c'est. Enfin, pour moi, c'est ce genre de projet qui est vraiment aberrant et qui tient pas la route à l'heure actuelle où on sait que la consommation de viande, par exemple, c'est un des gros facteurs aussi de. Enfin. C'est un facteur d'émission de gaz à effet de serre et c'est quelque chose qui amplifie le changement climatique, qui est une des causes aussi d'érosion de la biodiversité. Donc, à l'heure où on devrait essayer de réduire notre consommation de viande pour essayer de faire notre petit colibri pour le climat et pour la biodiversité, voir ce genre d'élevage intensif sur étage se développer, ça fait un petit peu peur, ouais.
Ça fait un peu peur, mais quand tu parles, t'as un peu le sourire, et puis ça n'a pas l'air négatif. Enfin, ça a l'air un peu positif, j'ai confiance.
Ben moi, je suis plus plutôt positif de nature, donc...
Parce qu'il est jeune.
Ouais, parce que oui, j'ai intérêt à être positif, parce que si je commence à être négatif et pessimiste maintenant, j'ai pas fini de pleurer dans ma vie, je pense.
Non, tu dis qu'il est jeune, mais c'est les jeunes qui vont trinquer quand même.
Mais on va trinquer avec le sourire.
Et puis moi, je sais pas... Bon, moi, j'ai raté les présentations, mais j'ai deux enfants, et je me dois aussi d'être optimiste. Par contre, tous les jours, toutes les infos que je vois ne m'incitent pas à l'optimisme, quoi. Là, j'ai vu une information sur les voitures électriques et l'extraction minière. C'est une conférence d'une femme qui s'appelle Aurore Stéphane, je ne sais pas si vous l'avez vue, et qui explique, elle est ingénieure donc, en géologie, elle explique... l'absurdité enfin de la voiture électrique, l'absurdité en fait de l'extraction minière. C'est-à-dire qu'on a tellement extrait et tellement consommé d'énergie pour extraire déjà tout le métal qui a été extrait et tous les besoins pour les nouveaux besoins, c'est-à-dire la voiture électrique en particulier, c'est juste absolument pas soutenable écologiquement. C'est une folie absolue.
Puis voir qui c'est qui les extrait aussi. Hein. Faut voir dans quelles conditions c'est
fait. Peu importe. L'extraction minière, de toute façon, c'est extrêmement polluant. Mais d'une façon qu'on n'imagine pas. Et donc, j'invite les auditeurs à écouter la conférence de cette femme-là, qui est spécialiste donc, de la question minière. Elle est géologue minière.
Ingénieur.
Et je crois que c'est Aurore Stéphane. Aurore, j'en suis pas sûr. Stéphane, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est une émission que j'ai vue hier, mais depuis 10 ans que je suis intéressé par cette question, c'est... je suis pas optimiste. On en a déjà parlé plein de fois avec Thierry. Mais non, c'est... Et là, il y a la COP. En Égypte, à Sharm el-Sheikh, enfin, avec Mohamed Al-Sissi.
Oui, mais il ne faut pas être négatif quand même. Bientôt, on va pouvoir se divertir. Il y aura une Coupe du Monde.
Au Qatar.
On sera tous ensemble. On va peut-être gagner.
Le côté optimiste, ça serait que peut-être que finalement, elle ne se fera pas.
Elle ne se fera pas.
Il reste encore 20 jours. Même pas 20 jours. Je crois qu'il reste 10 jours ou 13 jours.
Ah, mais c'est foutu.
Si dans les 13 jours qui viennent, on arrive à pas faire cette Coupe du Monde au Qatar, ça serait pas mal. Parce que rien que de faire cette Coupe du Monde au Qatar, c'est des millions, je crois que c'est des millions de tonnes de CO2 de plus.
Oui, mais il faut être sérieux. Si on ne s'entraîne pas sérieusement pour le Qatar, on ne sera jamais prêt pour les sports d'hiver en Arabie Saoudite. Donc, on fait une petite pause, on vient après pour savoir les uns et les autres si vous êtes positifs, parce qu'il y a besoin de la positivité quand même et d'une énergie galopante, sinon on n'est pas dans le caca.
Et alors attends, j'ai une petite info. Donc le moulin, c'est bien à Fontaines, parce que j'ai appelé mon frère, c'est bien à Fontaines, mais il y en a un autre qui est plus près de Bédarieux. Donc c'est pour ça que, et on en a parlé, donc on trouvera l'info. Il est plus près que Fontaines. Mais le vrai moulin, oui, c'est à Fontaines.
Non, mais j'espère pour toi, Lucas, parce que là, ça fait 200 appels qu'on reçoit.
C'est pour ça.
Personnes qui veulent savoir où se trouve le moulin de Bédarieux.
Et alors, je précise, il faut que tu aies 100 kilos. Sinon, ils te mélangent à d'autres olives. Et voilà. Donc, il faut que tu aies minimum 100 kilos pour si tu veux aller faire presser ton huile.
C'est la question.
Je comprends, mais c'est pour les auditeurs.
La question pour les auditeurs, c'est est-ce que quand tu amènes tes olives, tu récupères l'huile d'olive de tes olives?
C'est ça.
C'est pas toujours
le cas. Il faut avoir amené 100 kilos minimum
pour avoir l'assiette.
Sinon, voilà. C'est un mélange avec.
Voilà, exactement. Voilà.
You don't want me. Vous êtes bien sur Onda Pays, la radio des hauts cantons.
C'est plus fort que moi.
Vous êtes bien sur Onda Pays, la radio des hauts cantons. Vous êtes bien sur Onda Pays, la radio des hauts cantons.
C'est la promotion de l'année.
Alors aujourd'hui, avec Passe-moi le sel, surtout il y a différentes bouteilles de vin. C'est quoi qu'il y a?
L'or du puits, terre de pique, sans substance. Ça fait partie du réseau Déméter, hein. Ça veut dire sans sulfite ajouté, ça veut dire vin nature.
Oui, et même il est en biodynamie.
Donc
c'est sur le pic Saint-Loup, et je crois... C'est Morel, Philippe Morel, je crois.
Oui, c'est ça, ouais.
Voilà, et on la trouve à la COP de Bédarieux. Voilà, et c'est un super bon vin.
Ouais. On confirme.
Bah, la bouteille est finie. Hein,
c'est ça. Et oui, le réseau Déméter, c'est récent, ça. Hein.
Ah oui, alors je peux pas t'en dire davantage. Juste sur la biodynamie, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui.
Ouais. Ouais. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu connais de la biodynamie?
Pardon, je connais mon...
C'est particulier, alors, hein, la biodynamie.
Oui, alors, j'ai un ami qui cultive en biodynamie. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il fait de la sève de bouleau. Il récolte plein de petites choses comme ça qu'on ne connaît pas et qui soignent, qui ne sont pas mauvais pour la santé. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, mais je sais, c'est spécialisé. Je sais qu'il fait des trucs avec son eau, qu'il la passe. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Hein, c'est pour. Enfin, voilà, c'est plusieurs processus. Mais c'est compliqué, mais je.
Ah là, ça a l'air complexe parce que
non, mais c'est compliqué. Non, mais c'est pour ça que je te dis que je connais parce que j'ai des amis qui gravitent là-dedans. Mais c'est. Ça a l'air très très complexe, tu vois. Je ne me suis pas attardé là-dessus, mais je goûte leurs produits, leur miel, leur jus, leur tout, et ça marche. Enfin, ça ne me fait pas de mal en tout cas. Peut-être que ça me rend fou un peu, mais bon. Voilà.
On peut en savoir plus dessus.
Alors, sur la biodynamie, moi je ne suis pas un spécialiste non plus, mais j'ai lu quelques articles. C'est une culture biologique, hein, y a pas d'intrants chimiques. Et il y a beaucoup de travail par rapport aux phases de la Lune. Voilà, les traitements, c'est très, très calé avec la Lune. Et il y a quand même une dimension, si j'ai bien compris, une dimension ésotérique. Oui. C'est-à-dire que, voilà, il y a des produits spécifiques qu'on enterre à une période particulière. On fait pas une prière, mais bon, voilà, il y a une dimension...
Notamment du sang.
Voilà, du sang, ouais.
Avec de la corne, par exemple.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Et c'est quelque chose que je connais pas du tout, hein, qui m'échappe un petit peu. Mais voilà, le résultat pour ce vin, en tout cas, c'est qu'il est très bon. Hein.
Je crois que c'est ce qui compte. Hein.
C'est le principal.
Et puis après, le lendemain, on a moins mal.
J'ai des potes qui font du vin nature sur Bédarieux et les environs.
Lesquels?
Eh bien, Axel, Prouffer,
ouais.
Le temps des cerises. Après, je vais faire de la publicité pour les potes. Alors,
oui,
il y a Timothée Le Plâtre qui fait. C'est l'île de la tortue.
L'île de la tortue, mais c'est pas du vin nature.
Ben,
il est sans sulfite ajouté, l'île de la tortue. Ou au moins, il a une de ses cuvées qui est sans sulfite ajouté.
Hein, je pense que des fois, il en met. Enfin, c'est quand même très propre. Et Tom et Mia. Qui font l'obscur génie des fleurs. L'obscur génie des fleurs, c'est leur cuvée. Voilà, eux, ils ont leur cave à Bédarieux. Et donc, c'est trois potes qui font du super bon vin. Quoi. Voilà, vin à l'ancienne, sans produits chimiques, bien, bien propre. Quoi. Et c'est des jeunes qui sont super motivés.
Puis il y a ceux qui arrêtent aussi.
Et il y a ceux qui arrêtent, ouais. Bon, après, ils donnent la relève et les bonnes recettes.
C'est ça.
En général, ceux qui arrêtent, les jeunes, reprennent de plus en plus en bio. Alors, ils font des conversions bio, il faut 5 ans, je crois, pour faire une conversion bio. Mais la plupart des vignobles du coin et dans le Faugérois, et ici aussi, c'est qu'on vinifiait et on cultivait avec des produits Hein, ici, c'était de tradition quand même, d'arroser quand même copieusement. Et de plus en plus, le vin, il se fait en biologie. Et c'est de plus en plus, il y a un travail sur le cépage. Et de, voilà, c'est des super bons vins quoi, qui se font. La jeunesse, elle a quand même pris conscience de la problématique des pesticides dans la viticulture. Surtout que ça, c'est un des, je crois que c'est une des cultures où ça balance le plus. Quoi.
Après,
il y a des conséquences sanitaires. Hein, c'est-à-dire que, merde, les viticulteurs, ils... Ouais, c'est le portable.
Écoutez, Onda País, la radio des Hauts-Cantons.
On va vite enchaîner en même temps, vu que Arnaud parlait des jeunes. Bon, je pense que je me sens bien concerné avec Bastien, vu qu'on est, je crois, les deux plus jeunes de la table. À peu près. Qu'est-ce qu'en pense la jeunesse de ce qu'a dit Arnaud sur l'agriculture,
les modifications de l'agriculture? Ben oui, non, mais je suis complètement d'accord que, a priori, il y a un changement de conscience qui se fait. Mon point de vue à moi, c'est que ça se fait pas assez vite, quoi. Faudrait que ça change plus vite, quoi. Et pas surtout, ouais. C'est vrai que l'agriculture, c'est quand même un gros point. Les agriculteurs, c'est quand même les premiers gestionnaires d'espaces naturels de France, quoi. En fait, on se dit que quand on voit les grandes monocultures en Beauce ou dans ces grandes plaines céréalières où on a des déserts biologiques avec des champs de blé, d'orge ou de maïs à perte de vue, sans une haie, sans rien, on se dit, mais... on a quand même perdu une partie de notre patrimoine naturel pour produire de la bouffe. Ben ouais, c'est ça, c'est de la bouffe avec des intrants. Et voilà. Et souvent d'ailleurs, le maïs, pour nourrir pour nourrir du bétail et pas pour nourrir des bouches humaines, quoi. Donc, alors qu'on aurait pu.
Nourrir du bétail.
C'est vrai que ces initiatives de jeunes agriculteurs qui se mettent en bio, qui se convertissent et qui reprennent un petit bout de terrain en faisant de l'agriculture paysanne, vraiment en sens de vraiment vertueux, quoi, la paysannerie au sens l'homme proche de la terre, quoi, et vraiment qui travaille avec ses mains et qui est proche de la nature, là pour le coup ça c'est pour moi c'est vraiment quelque chose de super positif. Et il y a une grosse partie des naturalistes, et j'en fais partie, qui se pose la question de savoir, mais en fait, est-ce que ça serait pas le devenir de tout le monde, enfin de revenir à la terre et de faire un travail qui soit plus proche de la nature et qu'on travaille vraiment dans le concret à la préservation de la nature et à la création, enfin à faire de la terre quelque chose qui puisse nous apporter quelque chose et en même temps qu'on la préserve. Il y a beaucoup de naturalistes qui se posent la question. Ouais.
On parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique.
On n'y est pas encore. Hein.
Ouais, mais on est à des années-lumière.
Ah, mais complètement.
Bon. Mais je pense que ce qu'il faudrait que les citoyens appuient, c'est sur la transition agricole. Mmh. Voilà. Pas que seulement qu'en France, hein, c'est mondial.
Partout.
Parce que la transition écologique, elle peut se faire que s'il y a une transition agricole mondiale. Mmh. C'est-à-dire arrêter de produire de la nourriture pour faire de la viande et de la viande de merde, et qui va traverser la planète, les agneaux de Nouvelle-Zélande et puis les bœufs des États-Unis pour venir ici. Alors c'est une aberration totale. Donc à mon avis, et c'est très politique ce que je suis en train de dire,
il n'aime pas,
il n'aime pas, je sais qu'il n'aime pas Thierry.
C'est pas vrai, si.
Il a toujours peur que
tu dis, si tu dis pas du mal de mon ami Manuel.
Non, je donnerai pas de nom. Mais du coup, si on prend à bras le corps cette question de la transition agricole, il y a des millions d'emplois
à créer.
On va pas résoudre tous les problèmes du réchauffement climatique, ça c'est mort. Hein. Enfin,
non, mais il y a des questions.
Mais en tout cas, pour moi, c'est la priorité absolue. Mmh. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mette des milliards d'euros, des centaines de milliards à travers le monde. Hein, tous les pays devraient mettre des milliards pour la transition agricole. Avant la transition énergétique, c'est-à-dire faut arrêter cette question, cette lubie de la voiture électrique, c'est une folie absolue. Et se focaliser sur la transition agricole. Voilà, et remettre les gens à la terre.
Ouais, c'est ça, remettre le métier de paysan.
Mais oui.
Parce que ceux qui font ça, tu en parlais tout à l'heure, et tu disais, donc vous en parliez tous, ces jeunes qui se mettent à reprendre ou des activités tout seuls ou à reprendre des exploitations familiales et à les transformer en bio, en biodynamie ou en nature, ou sans intrants, après on a les noms qu'on veut dessus, ils sont vachement courageux parce qu'ils gagnent. Ils n'ont aucun financement pratiquement, alors très peu. Mmh. Quand ils ont des financements, ça leur demande quand même de faire des concessions. Mmh. Et c'est pas facile du tout comme statut, le statut d'agriculteur. On a beau leur taper dessus en disant ce que vous faites c'est dégueulasse, mais on leur a appris ça toute leur enfance, celle de leurs parents. Donc c'est pas évident non plus de, je dis pas qu'il faut pas changer, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, mais c'est pas évident non plus de faire changer des gens à qui on explique aujourd'hui que toute leur vie ils ont fait de la merde, en fait.
Oui, mais aujourd'hui
qu'on a rendu dépendant quand même.
Oui, parce que
d'un système et de façon de fonctionner, hein.
Parce que aujourd'hui ce que les gens ils recherchent, ces petits producteurs, c'est avoir le label bio. Mais le label bio, moi ma grand-mère elle faisait des choses, des plats. Moi j'habitais en Pologne, il n'y avait pas de pesticides. Mmh. On avait notre jardin. Et aujourd'hui, le bio, il coûte plus cher. Enfin, il est beaucoup plus cher. Mais aujourd'hui, c'est une industrie. Mmh. Ça devient un commerce, le bio. Donc, le bio, c'est une belle blague, quoi. Le vert. Moi, j'ai mon jardin. Je me suis suffi tout l'été avec mon jardin. J'allais acheter les produits nécessaires. Comme la bière ou le vin, voilà, un peu interdit dans les supermarchés. Ouais, mais sinon, voilà,
on est
indispensable, tu vois. Mais sinon, on est autosuffisant, quoi. Quand je suis allé à la Réunion ou quand truc, bah, c'est local. Il y a des arbres, tu cueilles, truc, voilà, t'as pas besoin d'aller au supermarché, tu vois, pour acheter les produits corrompus, quoi.
Pour trouver des produits bio emballés sous plastique.
Voilà, tu vois, ça c'est une aberration pour moi.
Tu vois, on a, et je vois des fois. Voilà, le bio industriel, mais aujourd'hui c'est ça. C'est parce que les petits.
Le bio, c'est pas une aberration.
Non,
c'est bio industriel.
Oui, le bio industriel, mais aujourd'hui, quand tu as l'étiquette bio sur ta bouteille, pour moi, c'est un peu une blague.
Si ça vient d'Espagne, c'est pas la peine.
Oui. Tu vois, voilà.
C'est évident.
C'est pas très loin l'Espagne. Non, c'est si ça vient du Chili
ou
de Nouvelle-Zélande.
Ouais, mais de partout. Là, c'est une aberration. C'est compliqué.
Quoi ? Vous voulez m'empêcher de manger des bananes en hiver ?
La Catalogne,
et des tomates
c'est
en hiver ?
C'est moins loin que l'Alsace.
Oui.
Donc, je préfère prendre des produits de Catalogne s'il si faut les prendre de
En Alsace, il n'y a pas beaucoup d'oranges.
En Alsace.
Tu peux en avoir. Mais aujourd'hui, les gens cultivent dans des serres ou dans des trucs comme ça. Donc, on pourrait avoir des très bonnes oranges ou des très bonnes fraises cultivées même en hiver. Ça, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est de savoir ce que tu mets dans tes fraises.
Non, c'est, d'après moi, c'est un problème. Parce qu'à un moment donné, l'intrant simplement de lumière, etc., je veux dire, ta fraise que tu, fais, que tu cultives sous serre dans en hiver, elle aura, dans du polystyrène, elle n'aura pas forcément les mêmes apports énergétiques qu'une qui pousse naturellement avec son soleil.
Je suis d'accord aussi. Mais on parlait de la biodynamie. Il y a un calendrier lunaire. Donc c'est un peu, ça en devient un petit peu du chamanisme. Tu vois, c'est, on se fie à la lune, aux présences fortes, au vent, c'est un peu de l'animisme, tu vois, se fier à la nature, quoi, au final. Donc, quand tu le ressens, toi, donc c'est, oui, c'est vrai que mettre quelque chose sous plastique, oui, c'est déjà une mauvaise création de base. Donc,
mais les fraises en hiver, c'est une aberration, les cerises en hiver,
d'accord.
C'est... Il faut pas.
Il faut vivre avec la saison, vivre avec le vent, et oui, je suis d'accord. Bah c'est déjà plus
de toute façon, bientôt on va aller faire du ski en Arabie Saoudite. Donc, non, dire, qu'est-ce que si pourquoi vous nous faites chier, excusez-moi l'expression, sur ces sujets-là. Bientôt, il y a tout ça qui part en live.
J'en profite de ce que tu viens de dire, Sarah, sur le ski en hiver en Arabie Saoudite. Moi, je pose un pavé dans la mare, là. Et, grâce au prix de l'électricité qui va être super cher, les remontées mécaniques vont être inabordables pour les gens.
Comme c'est déjà fermé.
Oui, mais il y en a certaines qui vont peut-être ouvrir. Moi, je suis plutôt... optimiste à voir les stations de sport d'hiver fermées, parce que la plupart des stations de ski utilisent de l'eau qu'on pulvérise pour faire de la fausse neige. Donc moi je vous pose la question, Est-ce que vous faites du ski, vous? Enfin, moi, j'ai jamais trop aimé ça. Hein.
Non, moi, je vais à la
prendre un tire-fesse pour pouvoir redescendre une pente sans aller nulle part. J'ai jamais trop kiffé.
De la luge, moi.
Mais voilà, je suis un petit peu ayatollah, Khmer vert, comme diraient certains. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, si grâce au renchérissement du prix de l'électricité, il n'y a plus les sports d'hiver, enfin, et l'aberration des remontées mécaniques, de l'électricité dépensée, de la flotte dépensée. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bonus pour le climat et la biodiversité. Hein, pour
moi, je suis contre les sports d'hiver déjà. aller à la neige, tu vois, aller faire du ski, voilà. Quand on allait à la montagne, on allait gravir le Mont Blanc. On n'allait pas.
Carrément.
Oui.
Tu vois, donc mais dans ce cas-là, on est trop.
Si tu vas à la montagne, non, mais je veux dire, tu vas pas faire du ski, c'est comme aller en colonie de vacances ou aller pêcher la sardine, tu vois, on s'en fout. Voilà, mais moi non, je suis contre les stations de ski. Contre les stations de ski.
Ouais,
puis mais Ribel, ici, c'est bien, parce que c'est bien, mais sinon, les autres.
C'est pas le plus high-tech, si, le plus. Mais Ribel, il y a mieux.
Non, puis globalement, on a de la neige, on fait du ski, d'accord, mais là, le réchauffement climatique, on a moins de neige. Qu'est-ce qu'on fait? On propulse de la neige synthétique sur les. C'est un pansement sur une jambe de bois, quoi. C'est une fuite en avant, on règle pas du tout la source du problème, et puis on se masque les yeux sur le problème qui existe, qui est le réchauffement climatique.
Mais on a éduqué les gens à aller faire du ski, tu vois.
Ouais.
Mais chaque hiver, il faut aller au ski. Mais chaque été, il faut aller à Saint-Trope, il faut aller à la plage, tu vois, et puis voilà. Donc c'est la débilité humaine, quoi, au final, tu vois. Ouais, c'est chaud, quoi.
Oui, il y a une reconversion à faire dans l'agriculture paysanne.
Oui, carrément. Mais ça se fait. Il y a des parcours qui font à la montagne, mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de neige, avec la découverte de la biodiversité, justement. Enfin, des plantes, la découverte des plantes thérapeutiques et tout ça, qui réapparaissent.
Les stations de ski, les stations où on y allait l'hiver, ben là, il a fait tellement chaud que les gens ils sont allés à la montagne cet été.
Ouais, donc il y a un débouché. Je préfère,
on a le droit de vivre. Moi je kiffe les sports de glisse, les sports le ski, il faudrait que ça soit accessible à tous. Et du coup, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que on peut je pose la question, mais j'ai la réponse. Est-ce que on peut admettre que la planète entière, c'est-à-dire 9 milliards d'humains, fassent des sports d'hiver l'hiver, aillent faire des milliers de kilomètres l'été?
Non.
On sait que c'est pas soutenable.
Non,
mais là tu parles de milliers de kilomètres.
Moi, je suis contre.
C'est-à-dire mais que quand si c'est à 200 kilomètres.
Oui. Non, mais je parle de la façon de vivre des Occidentaux entre guillemets depuis des années. Mm-hmm. C'est on va. Et c'est un modèle qui est pas reproductible à 100%, mais on va au sport d'hiver l'hiver, et on va à la mer l'été, et pour les bourgeois, on va faire des milliers de kilomètres pour aller visiter des pays exotiques. Bon, ça a été un modèle économique pendant des dizaines d'années, en France, aux États-Unis, enfin dans tous les pays européens et d'Amérique du Nord, et pas que en plus. Ma question, c'est, est-ce que c'est soutenable? Est-ce que maintenant qu'on sait dans la mouise dans laquelle on est, est-ce qu'on peut accepter que la planète entière ait ce même mode de vie pour la fameuse croissance, qui est complètement une aberration? On sait que la réponse est non. Voilà. Donc maintenant, mon côté polémique, comment on fait pour limiter l'accès à ces loisirs au plus petit nombre? Et là, y en a, ils ont trouvé la réponse. C'est le pognon. C'est-à-dire que seuls les très riches pourront se permettre d'aller au ski l'hiver, faire des milliers de kilomètres en avion l'été, voire toute l'année. Et donc là, moi, je lance encore un pavé dans la mare, mais c'est le chemin vers lequel on va. Si il n'y a pas une prise de conscience collective internationale.
Au-delà du changement, effectivement, parce que la censure, enfin on va dire la problématique financière, effectivement, on touche à la justice sociale finalement, en même temps qui est parallèle finalement à la justice climatique aussi. Brider un petit peu les possibilités des gens à faire quelque chose financièrement, c'est on touche à l'injustice finalement sociale, quoi. Totalement, voilà. Totalement. Et donc je pense pas que dans un objectif de prise de conscience générale sur le changement climatique et sur le changement de paradigme dans lequel on est censé se retrouver, on arrivera à quelque chose de positif, quoi. Et
oui, mais du coup, on va vers le mur.
Ouais. Non, mais
on va vers un mur. C'est impossible.
Pour citer Aurélien Barreau, ce qu'il faudrait effectivement, alors après, est-ce que ça se fera pas, c'est qu'il faut, pour citer le nom de son petit article qu'il a fait, je sais pas si vous l'avez lu, il s'appelle Il faut une révolution philosophique, poétique, attends, sociale. Non, merde, attends. Je vais retrouver. Il faut une révolution politique, philosophique et poétique. Et en fait, c'est ça, c'est un. Je pense que dans la société, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de pensée, il faut qu'on change de est-ce que avoir le dernier fringue en mode, est-ce que avoir le dernier téléphone, est-ce que c'est ça le bonheur? En fait, faut juste se poser la question, est-ce qu'on peut pas simplement être heureux simplement là, pour citer Pierre Rabhi, est-ce que la sobriété heureuse, ça serait pas un petit peu l'objectif de nos vies, quoi? Être heureux simplement de manière sobre et avec ce qu'on a sous la main et sans chercher la lune et sans chercher à vouloir dévaler les pentes de telle ou telle montagne ou d'aller à visiter tel ou tel pays. Est-ce qu'avec ce qu'on a sous la main, à faire nos petits tours en vélo, à observer les oiseaux du coin, pour moi, voilà, c'est les petits plaisirs de la vie, sans satisfaire et sans contenter et finalement pas chercher à rentrer dans ce phénomène de société de consommation qui nous pousse toujours à aller chercher plus loin, à chercher des choses qui sont finalement inaccessibles parce que plus on en a et plus on en veut et finalement plus on consomme et c'est ce qu'ils cherchent à nous faire faire aussi. On cherche à consommer pour finalement rien avoir au final et pas être plus heureux que quelqu'un qui se contente de ce qu'il a et de sa petite vie paisible. Donc je pense que c'est peut-être un changement global, philosophique, poétique et qu'il faudrait chercher à avoir dans la société, quoi, actuelle. Alors je dis pas que c'est facile et je dis pas qu'on y arrivera, mais je pense qu'effectivement c'est quelque chose... C'est un axe de réflexion, quoi. The problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. Then he kissed me. And I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop out the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
Et Et avec Radio Onda Pays, pour l'émission Passe-moi le sel, autour d'une table avec nos invités, entre Arnaud, Lucas et Bastien, bien sûr animé par Sarah et Thierry. On refait le monde sans vouloir le refaire, simplement pour en parler, et peut-être faire avancer les choses ou des mentalités.
Vous écoutez Onda Pays, la radio des Hauts-Cantons.
Et justement, est-ce que à un moment donné, cette époque où on valorisait, ou cette époque, je parle il y a très longtemps, d'une époque où on était multithéiste, c'est-à-dire qu'il y avait des dieux qui étaient représentés pour tout, pour l'agriculture, la déesse de la fécondité, etc. Donc finalement, des personnages que l'on va vénérer, et on a le choix, puisqu'il y en a tellement que finalement on va vénérer ce qu'on veut. Et ça permettait vraiment de valoriser des actes au quotidien qui nous sont compliqués de valoriser aujourd'hui, qui sont se nourrir, planter pour se nourrir et réussir à transmettre des choses importantes. Mmh. Et on a tous cette sensation, plus ou moins, quelles que soient les générations, qu'on est en train de perdre
ce lien.
Exactement. Mmh. Et comment... Mmh. Parce que moi, je suis quelqu'un de très positif. Toujours. Et de me dire que la fin de la fin... Donc moi, je suis prête, hein, pourquoi pas, c'est la fin de la fin. Écoute, on y va tous.
Bon, a priori, il y a un astéroïde qui ne va pas tarder à arriver.
Voilà, a priori, en plus, effectivement.
On ne va pas se faire chier.
Et, mais toutes ces questions-là, elles nous nourrissent aussi. Donc, oui. Nous sommes aussi le fruit de notre époque, et le fruit de notre réflexion vient de notre époque. Donc, si on pense à aujourd'hui, c'est qu'on a vécu tout ça avant. Et je continue de penser que c'est, comme vous le dites tous, finalement, c'est par le lien humain qu'on trouvera les solutions. Par contre, on est de plus en plus nombreux. On nous fait croire qu'il y a de moins en moins de ressources. Ça, moi, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout.
On peut nourrir 10 milliards de personnes sur la planète en bio.
Voilà.
Pour les spécialistes, hein, agronomes. Donc, il n'y a aucun souci.
Et puis, nourrir, pas survivre. Hein. On parle de nourrir.
Attention.
Non, pas de se gaffe.
10 milliards de personnes... Pas comme les États-Unis,
hein, oui,
parce que les
États-Unis,
c'est pas possible.
Non, j'ai pas dit goinfré.
Voilà, pas goinfré et pas de la viande à chaque repas. Ça, c'est pas soutenable. Puis c'est pas bon pour la santé de toute façon.
Non, puis il y a des solutions à tout ça, je pense. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont désolés, désespérément désolés. Et je me dis, mince, c'est pas en étant désespérément désolé qu'on va trouver des solutions pour se dire, ok, il y a peut-être... un autre état d'esprit, et c'est compliqué, je dis pas que c'est facile, j'y suis pas encore, hein. c'est un chemin de se dire, il y a peut-être une autre solution pour qu'on trouve une solution viable pour le peuple.
Oui, la problématique qu'on a, c'est que en gros, ce qu'il faudrait, c'est une modification de la pensée générale, quoi, de notre relation en tant qu'humain à la nature, à l'environnement qu'on a autour de nous, et c'est un changement de paradigme, quoi, global, qu'il faudrait avoir. Et ça, c'est certainement faisable, mais sur un pas de temps qui est probablement très long, quoi. Pour le temps que tout le monde prenne conscience, change ses mentalités, change sa façon d'opérer, sa façon de faire, il y en a qui le font très vite et qui sont très conscients, il y en a d'autres qui, pour lesquels c'est une aberration, le bio, les écologues nous font chier, etc. Et le temps que tout le monde change, la question, c'est, est-ce que le temps que tout le monde change, le problème va pas empirer? Parce que finalement, le délai qui nous est donné par rapport à la crise climatique, qui est finalement juste un facteur d'impact sur la crise de la biodiversité, qui est encore plus générale, est-ce qu'on n'est pas déjà... alors, est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Ça, c'est une question un peu pessimiste.
Je pense qu'il
n'est jamais trop tard. Les accords de Paris, ils voulaient 1,5 degré, hein, d'augmentation. C'est déjà raide, on est déjà mort, on sera au-dessus. Donc, on sait que dans tous les cas, on va avoir des événements climatiques extrêmes, on va avoir des migrations de masse, on va avoir des problèmes mondiaux, globaux. Donc ça, on le sait. Le truc, c'est qu'il faut qu'on limite la casse. Et pour limiter la casse, il faut qu'on le fasse vite. Donc, il faut que ce changement de paradigme arrive le plus vite possible. Donc, voilà, il faut qu'on passe à la radio pour essayer de faire passer le message, quoi.
Alors, justement, nous, on a de la chance, ici, là, à Bédarieux. Parce qu'on n'est pas proche de la mer. Donc, on ne va pas subir...
On va pas être englouti, ouais.
Voilà, on va pas subir l'élévation du niveau de la mer. Et on a une autre chance, et c'est pas une chance, c'est même... ouais, une super chance, quoi. C'est qu'on vit dans un territoire qui est superbe. Tu parlais de poésie. Oui. Aujourd'hui, moi, j'ai fait l'éloge de mon arbre, de l'olivier.
De ton olivier, ouais.
Et hier, je suis allé faire une randonnée au-dessus d'Andabre, là, à côté du col de l'Ortigas. Ouais. Je suis allé voir le portail de Rocandouille. Je sais pas si vous connaissez.
J'étais dimanche pas très loin. J'ai fait une balade depuis le col de l'Ortigas aussi.
Ouais. Mmh. Et ben c'est absolument magnifique. Mmh. Et donc on a cette chance là, nous ici, de côtoyer la poésie de la nature. Mmh. Voilà.
Clairement.
Mais nous, donc du coup,
la regarder.
Ouais, il faut prendre le temps, je t'assure. Bon, évidemment, la plupart des gens travaillent pour tout dire. Moi, je me considère comme homme au foyer. Donc, j'ai pas un travail. Voilà.
Mais c'est un travail d'être homme au foyer aussi.
C'est un travail parce qu'on
est d'accord.
On sait ce que c'est que
de s'occuper du foyer.
Du foyer. Bon. Enfin, je ne vais pas te raconter toute mon histoire, mais du coup, je me suis permis d'avoir du temps pour faire des choses qui ont du sens pour moi, en tout cas. Et donc, du coup, c'est quand même plus facile pour nous, ici, là, à Bédarieux, et pour des gens qui ont le temps, d'avoir la réflexion sur cette problématique-là, globale. C'est pas le cas. On a un luxe. Donc, c'est un luxe, mais qui nous prend la tête. Mais c'est un luxe quand même, parce que la plupart des gens à travers la planète ne l'ont pas. Ils sont confrontés à ce mur-là et ils n'ont même pas la possibilité d'agir. Nous, on a la possibilité d'agir. Donc moi, j'ai fait la publicité, tu vois, de ma randonnée là, qui était absolument magnifique, hein, et de mon olivier. Mais voilà, pour revenir à ce que tu disais, il faut réintroduire de la poésie.
Ouais.
De la beauté,
du sens,
du
de
sens.
La beauté, il faut reconnecter l'homme à la nature.
On va rester là-dessus, juste parce que je crois que Bastien, tu...
Il va falloir que j'y aille, j'ai quelques notes de clarinette à jouer à l'Orchestre d'Harmonie de Bédarieux.
On aurait pu parler plus longtemps sur beaucoup de choses et là-dessus,
on avait beaucoup
mais
de
peut-être que
dire,
ça sera
encore.
Un bis, on va faire une musique. Nous, on va continuer, peut-être sans toi, sauf si tu annules ta répète à Bédarieux.
Je vais quand même y aller parce que j'ai le 11 novembre à assurer derrière pour les cérémonies.
Cool.
Mais peut-être, je ne sais pas si tu le couperas au montage, juste l'ouvrage d'Aurélien Barraud, que je le dise proprement, si tu voudras le récupérer. C'est, le petit ouvrage, c'est vraiment un livret qui fait 6 ou 7 pages, je crois, et ça s'appelle « Il faut une révolution politique, poétique et philosophique » d'Aurélien Barraud. Et je vous conseille un petit peu sa lecture. Et éventuellement, il essaye de faire de moins en moins de vidéos sur YouTube parce qu'effectivement, le streaming, les vidéos sur YouTube, c'est un gouffre, voilà, et un gros émetteur de pollution et de gaz. Tout ce qu'on appelle de choses dématérialisées, en fait, il n'y a rien de dématérialisé, tout est matériel et tout pollue. Mais Aurélien Barraud a fait quelques vidéos qui sont super intéressantes sur le sujet, notamment ce changement de paradigme, ces cosmogonies qu'on évoquait tout à l'heure, les religions, notre lien à la intellectuel, on va dire, à la nature et à la terre dont on vient. Et il évoque ça beaucoup, et je pense que c'est quelqu'un qui peut être un petit peu un éveilleur de conscience, en tout cas sur ce sujet. Donc je vous conseille ces lectures et ces vidéos.
L'éveil de conscience, ça fait toujours du bien, de toute façon ça ne peut pas faire de mal.
Non.
Bastien, bonne répète.
Merci beaucoup, merci à vous pour
cette invitation. À une prochaine, Bastien.
Et ben avec plaisir, avec grand plaisir. Bonne continuation et bonne émission.
Yeah.
Est-ce que vous en avez déjà parlé de la couleur des mousses là, des micros?
Vas-y, mais on peut utiliser.
Est-ce que vous l'avez déjà?
Oui.
Non.
Oui, la mienne, c'est le rouge.
Ça, c'est la tienne.
Ça, c'est la mienne.
Ok. Ouais. Lucas, la jaune.
La jaune.
Il faut les filmer parce que ceux qui t'entendent ne savent pas de quoi tu parles.
Et moi, j'ai la noire.
Ça s'appelle la chaussette, en fait.
Ah, la chaussette. Voilà, je cherchais le truc. Alors, est-ce que ça?
Ben oui.
Belgique, Allemagne aussi, non? Mais sinon, le rouge, donc plutôt coco. Le noir, anarchiste, ça me plaît. Alors le jaune,
le jaune par exemple. Ah, moi, j'aime pas le jaune. J'aime pas le jaune, mais j'étais sur le noir. J'étais sur le noir, tu m'as pris la place. Moi, j'aime bien le rouge, tu vois, ma couleur, c'est le bleu et le rouge. Et j'aime bien le vert aussi. Tu vois.
Ah, moi, le jaune, c'est ma couleur. Le nom de mon entreprise, c'est en jaune. Moi, c'est jaune.
Le jaune pour le soleil, le jaune, tu vois, c'est bien.
Alors le jaune, j'adore le jaune, hein. Mais symboliquement, ça a une...
Ça dépend de quel côté tu regardes la
Moi, j'ai eu la jaunisse à 2 ans, donc j'aime pas trop le jaune.
Ah, vas-y, développe.
Si tu le regardes au niveau politique, ça peut représenter quelque chose, mais sinon le jaune, oui, en identité visuelle, ça représente autre chose.
Ah, mais tout à fait. Moi, j'adore le jaune.
D'ailleurs, pas celui-ci. Celui-ci, c'est un jaune qui tire vers le vert.
Il est un peu
C'est pas un jaune orangé. Il est pas terrible.
Non, mais par exemple, la main de Touche pas à mon pote, la première main, elle était jaune.
Oui.
Tu vois, et pourquoi?
Tout à fait.
Ok, bah écoutez, hein. Là-dessus.
C'est pas mal.
Je crois qu'il nous met de. On le met tous dehors, Thierry.
C'était une belle émission.
Un finish là-dessus, c'est pas mal. Bravo. On va aller finir la dernière fois.
C'est régal.
C'est l'émission Passe-moi le sel. On se retrouve de toute façon dans 15 jours. Était invité. On a Bastien qui a dû repartir pour de la musique, mais qui était avec nous pendant toute cette émission. Il reviendra. Nous avons également Lucas, que vous reverrez certainement, ainsi que Arnaud. Et bien sûr, Sarah.
Et Thierry.
Nos pommes. Salut à vous. Salut à vous tous.
Salut.
Allez, à la prochaine.
À la prochaine.
Je peux faire une photo de vous? Alors il manque Bastien.